La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. On va parler aujourd'hui d'une question particulièrement importante qui est celle de l'annonce d'un diagnostic difficile, l'annonce d'un pronostic peut-être encore plus difficile. Et il est vrai que dans notre parcours de vie, la survenue d'une maladie grave ou éventuellement chronique ou d'un accident suppose une acceptation et puis ensuite, bien sûr, une adaptation, le tout étant difficile. Et il se trouve que l'annonce d'un diagnostic et l'évocation des événements qui vont succéder représentent dans cette éventualité une étape très importante, on peut dire même d'autant plus importante que des mots comme cancer, comme maladie chronique, comme séquelles, comme diabète doivent souvent être évoqués. Et c'est bien sûr une mauvaise nouvelle que le médecin n'a pas envie de dire à son malade, mais lequel malade n'a pas non plus envie de l'entendre parfois. Alors aussi peut s'installer une sorte d'impasse dans la communication entre professionnels de santé d'un côté et patients de l'autre, qui s'installe dans un environnement qui est de grande souffrance pour tous les acteurs. Alors afin de mieux appréhender cette question, des moyens qui peuvent rendre l'annonce la plus acceptable possible, nous avons à nos côtés le professeur Blétry, qui est spécialiste de réanimation médicale, Madame Ferrini et Monsieur Journet, qui sont représentants de l'Association française des diabétiques. Ils ont bien voulu tous participer à cette émission. Je les en remercie très vivement à votre nom, auditrice et auditeur. Alors, peut-être il serait bon que chacun se présente de façon à ce que notre auditorat vous connaisse un peu mieux. Est-ce que je peux vous demander, Madame Ferrini, de vous présenter ?
Donc, je m'appelle Pierrette Ferrini, j'ai 66 ans. Je suis diabétique depuis 1985. Je suis diabétique de type 1, donc traitée par insuline. Et je fais partie de l'Association des diabétiques en tant que vice-présidente.
Bonjour, Michel Journet, donc j'ai 82 ans, je suis diabétique depuis 1997, ça va bientôt faire 30 ans, mais diabétique de type 2. Effectivement, pour moi, l'annonce, on en parlera plus tard, a été relativement convenable, mais parce que je ne savais pas tout.
Voilà, merci beaucoup. Et puis Bernard Blétry ?
Bernard Blétry, donc j'ai 82 ans. Et j'ai exercé pendant 40 à 45 ans dans une structure de réanimation médicale et de médecine d'urgence. Je crois que c'est le pire endroit pour faire de l'annonce parce que vous êtes à la fois pris par la gravité des choses que vous devez annoncer et par l'obligation de résoudre un certain nombre de problèmes très rapidement et de jamais oublier que la personne que vous avez en face de vous, qui se voit asséner des vérités auxquelles elle ne s'attendait pas, est entourée d'une famille qui n'a pas plus envie qu'elle d'apprendre ces mauvaises nouvelles et vous êtes lié, de par votre activité médicale, au secret médical. Qu'il est, il faut bien le retenir, parfois très difficile à respecter si on veut que le malade soit accompagné un peu par les médecins, mais surtout par son environnement. Parce que je pense qu'à cette période, enfin pour l'avoir vécu, l'environnement est essentiel.
Alors ces présentations étant faites, je vous propose peut-être pour conduire l'émission d'avoir dans un premier temps une définition de ce que peut être la problématique de l'annonce, pourquoi on l'a fait, à quoi ça sert, qui l'a fait, à quel moment. Et dans un deuxième temps, on pourrait alors, avec un aspect plus pratique, envisager le point de vue du soignant, d'un côté, et de l'autre côté, le point de vue de la personne soignée, puisque, bien sûr, ces deux points d'impact qui ne sont pas forcément les mêmes, et il est intéressant de les mettre en cohérence. Aussi, on pourrait dire que pour mieux cerner comment se fait l'annonce et qui permet au patient de comprendre ce qui lui arrive, mais aussi d'accepter et ensuite de s'adapter à une nouvelle vie qui sera forcément modifiée, Je me permettrai alors de rappeler que ces trois conditions, c'est-à-dire la compréhension de ce qui vous arrive, la certitude qu'il y a des moyens pour maîtriser ces nouvelles aléas, et enfin que la vie, quelque part, mérite encore d'être vécue parce qu'il y a un espoir qu'on peut voir se découvrir. Je rappellerai simplement que ce sont trois données qui ont été proposées par Aaron Antonovsky il y a maintenant pas mal d'années, autour des années, fin des années 80, avec ce qu'il avait appelé le sens de la cohérence. Autrement dit, l'annonce va se faire avec un sens que nous possédons tous, il avait appelé ça le sixième sens, mais à des degrés divers, et surtout, qui va changer en cours du temps, surtout lorsque la maladie arrive ou lorsque l'accident arrive. On peut avoir une cohérence à certains moments, puis dans d'autres, un sentiment qui n'est pas aussi développé. Donc je vous propose un déroulement de ce type. Est-ce que ça vous conviendrait? Vous avez... Oui, ça vous va?
Pas de problème.
Bon. Alors, la première partie, c'est donc la problématique de l'annonce. L'annonce, qu'est-ce que c'est? Qui pose la question? Alors, on peut imaginer plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la personne qui s'alarme parce qu'elle a un certain type de symptômes qu'elle n'interprète pas très bien. Pas forcément très alarmant, mais enfin quand même qui l'inquiète et qui va poser la question. Ou bien au contraire, ça peut être le cas, si c'est un enfant, des parents, voire des proches, qui vont, le cas échéant, devoir être renseignés, qui posent la question. Ce n'est pas tout à fait le même type de chose. Ou bien encore, on peut imaginer que c'est le médecin qui, à l'occasion d'un examen de routine, à l'occasion d'un bilan qui a été fait systématiquement, découvre que malheureusement, il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Donc c'est trois cas de figure qui vous paraissent, qui sont cohérents avec votre vécu, aux uns aux autres, c'est ça. Alors, si on pose des questions plus pratiques pour avoir des réponses quand même un peu intéressantes pour notre auditorat, et en m'adressant peut-être à vous d'abord, madame, et à vous, monsieur Journet, comment s'est posée pour vous la problématique de l'annonce, en l'occurrence d'une maladie chronique?
Alors, au départ, moi je suis très mal parce qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait, un diabétique de type 1, les symptômes sont assez... arrivent assez vite. Vous avez soif, vous êtes fatigué, c'est tous des symptômes qui sont... Je commence à avoir soif un mois et demi avant que je sois hospitalisée. Donc, c'est sur un laps de temps très court.
C'est bien ça, le premier cas de figure. Vous apercevez quelque chose qui ne va pas et ça vous alarme.
Oui, voilà. Et donc, mon médecin traitant m'hospitalise en catastrophe parce que là, je suis à un taux de sucre de plus de 4 grammes à jeun, donc ce qui est... Et je commence à maigrir, beaucoup trop, et c'est un début de coma diabétique, donc je commence par aller voir ce qui se passe en réanimation pendant 4-5 jours, et je fais 3 semaines d'hôpital pour mettre d'aplomb un traitement.
Et l'annonce s'est faite à ce moment-là?
Alors, l'annonce s'est faite, c'est le médecin traitant qui m'a dit c'est du diabète, mais on avait reçu les analyses avec le résultat, j'en avais dans ma famille, donc je savais ce que c'était. Et après, donc oui, on m'explique après. Au départ, vous êtes sous perfusion, etc. Mais progressivement, on vous amène, c'est encore des seringues avec de l'insuline, on vous explique à faire. Et c'est toutes ces choses-là qui vous font prendre conscience de la maladie.
En l'occurrence, ça n'a pas été très brutal, puisque vous aviez déjà connaissance qu'il y avait une existence dans votre famille, que d'autre part, vous aviez des examens complémentaires. Mais ça a été quand même un choc important.
C'était quand même un choc important. J'avais 25 ans. J'avais un petit bébé, donc c'était quand même un choc et c'est quand même un gros chamboulement dans la vie de tous les jours. C'est surtout après que c'est compliqué à mettre en place, à organiser, voilà.
Et vous, M. Journet, ça s'est passé de façon peut-être un peu moins dramatique?
Eh bien, c'est la particularité du diabète de type 2, c'est qu'il n'y a, aucun symptôme avant. Alors, j'avais 54 ans, pas de signe d'alarme, en pleine forme. Depuis de nombreuses années, j'avais un boulot qui me faisait manger au restaurant plusieurs fois par semaine, souvent reçu par les directeurs d'usine le soir. Je digérais tout, je ne grossissais pas, tout allait bien. Et puis, à 54 ans, J'ai pris, parce que c'était à la mode à l'époque, c'était les années 97, on faisait des check-up, un bilan.
Voilà.
Et c'est là qu'après avoir fait pipi dans une petite éprouvette, on a trempé un réactif qui a changé de couleur. Ce qui voulait dire que j'avais donc du sucre dans les urines.
Donc c'était pour vous une annonce brutale.
Alors c'était une annonce brutale, mais pas plus brutale que ça. Le médecin ne m'a pas affolé. Il m'a envoyé tout de suite chez mon médecin traitant qui m'a fait faire des analyses complémentaires et qui m'a dit ben, « c'est un diabète, on va soigner ça ». Il m'a donné les conseils utiles pour mieux équilibrer mon alimentation, pour avoir un peu plus d'activité physique. Mais dans ma petite tête, je pensais que 3 mois d'effort avec les médicaments du médecin, au bout de 6 mois, je serais tiré d'affaire.
Donc c'était pour vous une annonce évolutive.
C'était une annonce évolutive.
Vous êtes aperçu progressivement que c'était plus important.
C'est après qu'il a fallu que le médecin insiste en me disant « mais c'est ta vie, mon bonhomme, c'est ta vie, attention, etc. » Et j'en ai pris conscience en douceur, si je puis dire.
Alors, vous êtes en plus des représentants d'une association. Je pense que parfois, vous participez en partie à l'annonce, ou du moins, si l'annonce initiale a été faite, vous participez à sa compréhension, vous participez à la description de ce qui peut arriver, à rapporter votre propre vécu. Comment êtes-vous sollicité? Alors, les gens viennent vous voir parce qu'ils connaissent l'association, parce qu'ils ont eu vendre votre existence par un média, par comment ça se passe?
Alors, il y a effectivement, on essaie, nous, de nous faire connaître dans le cadre des hôpitaux, des médecins, etc. Il y a des gens autour, quand on parle de, on découvre un diabète, souvent ça parle autour, des fois il y a des personnes qui connaissent l'association, qui nous les envoient aussi, le bouche à oreille fonctionne bien. On a aussi des marches, des activités au sein de cette association qui permettent de discuter avec les gens et de les amener à des séances de ce qu'on appelle élan solidaire.
Ils viennent vous voir parce qu'ils n'ont pas eu des réponses complètes aux questions qui se posaient ou, quelle est leur motivation quand ils viennent vous voir?
C'est plus du complément. C'est le médecin explique ce qu'il faut faire, et derrière, nous, on sert de complément, de conseils alimentaires, entre autres. À partir d'un vécu, oui.
C'est ça.
Oui.
C'est souvent, effectivement, les médecins, tout au moins dans notre région en Bourgogne, parce que ce n'est pas la même chose partout.
Ils conseillent à leurs patients d'aller vous voir.
Parce qu'on va compléter les informations qu'ils donnent. Mais bon, bien entendu, une consultation médicale, ça dure un temps relativement limité. Le médecin dit tout, mais souvent, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et le médecin, les médecins, surtout les médecins diabétologues, ont compris que par notre intermédiaire, on allait pouvoir compléter un petit peu les informations, entretenir, redire 100 fois sur le métier, etc.
Alors maintenant, si je m'adresse à toi, Bernard, et on se tutoie, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, donc il ne faut pas que nos auditrices et nos auditeurs y voient une coquetterie. En ce qui te concerne, donc spécialiste de réanimation médicale, pour toi, la danse se fait dans des conditions qui sont sûrement assez dramatiques.
Ah ben, toujours. Dramatique parce que c'est brutalement le passage d'une vie sans problème et qui va être interrompue par un phénomène extérieur. Je pense surtout aux gens victimes d'un accident de la circulation qui vont avoir une fracture de colonne. Et à qui il va falloir apprendre qu'ils ne remarcheront plus.
Parce qu'ils ont une lésion médulaire liée à la fracture.
Ils ont coupé leur moelle et qu'il y a peut-être quelques possibilités maintenant, mais c'est très rare. Et donc, il faut arriver à faire passer ce message. Ou bien, moi, le message qui m'a le plus frappé, c'est celui de prévenir une mère que son enfant à qui elle a fait signe à 2h de l'après-midi parce qu'il partait à l'école, et qui, au premier tournant, en descendant chez lui, s'est fait ramasser par une voiture, a été tué sur le coup, et qu'il a fallu, à laquelle il a fallu faire comprendre que son enfant, qui était vivant,
était fini.
Il y a un quart d'heure, et bien maintenant...
Alors, est-ce que par ailleurs, il n'y a pas une particularité, c'est celle du coma dépassé ? C'est-à-dire une personne qui est dans le coma et dont on a la certitude qu'il y a une mort cérébrale, et là où il faut annoncer rapidement la mort cérébrale, dans la mesure où il peut y avoir des prélèvements d'organes qui sont faits secondairement.
Ça rejoint le problème de l'enfant, parce que là j'avais été confronté, alors c'est très aigu et très difficile à supporter, et pour les familles, et pour, et pour les médecins, parce qu'un enfant qui était en coma dépassé, tant qu'il n'est pas passé par les mains du réanimateur, on ne le dit pas, mais très rapidement on le sait. Mais immédiatement, vous avez les néphrologues qui viennent vous dire nous, on a besoin d'un rein, et un rein d'enfant en coma dépassé, c'est très très rare. Et le nombre d'enfants qui ont besoin d'un rein pour survivre est immense. Et donc il faut, et moi je me suis trouvé confronté à ce problème, à expliquer à une dame que son enfant était effectivement mort. Parce qu'il faut absolument arriver à leur comprendre avec des mots qu'ils comprennent. Et ces mots sont très difficiles à dire pour le médecin, et très difficiles à entendre, et à mon avis incapables d'être entendus par la famille, au point que je ne savais pas bien faire à l'époque, j'ai appris un peu mieux depuis. Bon, c'est toujours des cas particuliers. J'ai eu la surprise, après avoir discuté pendant une heure avec la mère, en dire « bon, ben, on peut se revoir dans un moment, vous réfléchissez à ce que je vous ai dit », au moment de lui dire « bon, ben, vous revenez quand vous voulez », elle s'est retournée vers moi en me disant « mais il se réveille quand ?» Donc manifestement, je m'étais...
L'attitude du déni, c'est une attitude de défense quelque part.
C'est, je crois, ce que les neurologues qui s'occupent du stress nous expliquent bien maintenant, c'est que lorsqu'on est confronté à une situation suraiguë, dans lequel il y a un problème de mort, votre niveau de compréhension, ça a été très étudié par les neurologues et les réanimateurs, est l'équivalent de la compréhension d'un enfant de 11 ans.
Et donc, alors, est-ce que ça, c'est la question qui tourne autour de l'enfant. Si c'est un adulte, est-ce qu'on peut évoquer la question des recommandations ou des directives anticipée.
Je peux dire tout ce que je pense.
Oui, je crois, bien sûr.
Les directives anticipées, c'est fait pour occuper les députés quand ils n'ont pas d'autres sujets de discorde. Parce que quand vous êtes un praticien et que vous avez été confronté à ce problème des directives anticipées, d'abord, pratiquement personne n'en a fait. Hein, je crois qu'il y a une période... On avait regardé, il y avait moins de 1% des Français qui avaient fait des recommandations anticipées. Et moi, je me suis aperçu dans la pratique que ces directives anticipées, même lorsqu'elles avaient été données, 20, 30 ans avant, ou 3, 4 ans avant, en pleine santé. Et moi, le premier, si on me demande est-ce que tu as envie de passer dans ton service quelques temps, un tube avec des tuyaux partout, j'ai tendance à dire non, je ne veux pas. Par contre, je peux vous assurer que j'en ai quelques-uns, mais j'ai eu très très peu de malades en réanimation qui m'ont demandé de ne pas les réanimer, de ne pas les intuber pour leur permettre de respirer un peu mieux. Donc les directives anticipées, c'est bien, on peut en discuter, ça permet un
peu de discuter. Mais c'est peu souvent utilisé.
Mais ça sert pas.
Alors, si je vous demandais à tous les trois, est-ce que au moment de l'annonce, vous avez eu le sentiment que l'information dont les personnes disposaient à travers les médias, ou éventuellement à travers le voisinage, est-ce que c'était parfois des éléments perturbateurs, parce qu'on trouve de tout sur les médias? Alors, est-ce que c'est... pour vous, est-ce que c'était une difficulté ?
Alors, c'est une difficulté parce que les gens autour de nous parlent de la grand-mère à qui on a coupé une jambe, pour les diabétiques ou des choses comme ça. Donc, ça fait même peur quand vous êtes jeune et qu'il vous tombe déjà une maladie sur le dos. Et en plus, quand on vous dit, il va falloir que tu suives un régime, puis il va falloir que tu... Il y a tout un tas de choses qui s'ajoutent À la limite, alors, on a dans les services hospitaliers maintenant, et on fait aussi de l'éducation thérapeutique, nous, de notre côté, je pense qu'il vaut mieux suivre les professionnels et quelque part, des fois, un peu se boucher les oreilles et suivre ce qu'on nous dit. Ça permet d'apprendre à gérer la maladie et après, on peut en discuter. Mais au départ, les informations arrivent pêle-mêle. Et on ne sait pas ce qui est bon et pas bon, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour le malade.
Et M. Journet, vous avez-vous un avis qui est convergent ?
Alors, absolument convergent, et en particulier vis-à-vis d'Internet ou vis-à-vis de... Même dans ma famille, un tel... Oui, non, mais il y a un Suisse qui guérit le diabète, il y a un Allemand qui a trouvé une solution, etc. C'est incroyable le nombre de solutions qui existent que ce soit sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ça existait déjà avant les réseaux sociaux. Alors, il est vrai que comme nous sommes dans une association qui fait partie d'une fédération qui est bien informée, comme à notre conseil d'administration, il y a le professeur Vergès, etc., nous sommes bien informés, on peut faire le tri, mais je me doute que pour le diabétique moyen...
Mais ce qui veut dire quand même que de temps en temps, vous êtes obligé, même si vous ne redressez pas l'information qui est fausse, vous la laissez comme ça parce que les gens l'ont entendu et qu'ils y croient sûrement, mais progressivement, vous allez vers vérification et une exposition plus claire de la réalité.
Dans nos actions, dans le grand public, nous invitons souvent des diabétologues en retraite pour apporter la caution médicale qui conforte ce qu'on dit.
Valide.
Et
Bernard, toi, tu as eu des soucis liés à cette information, parasite.
Je crois que les médias sont, à mon avis, catastrophiques vis-à-vis de ce problème parce que les médecins ne sont pas non plus très au clair. Et puis, ils n'ont pas à être très au clair. La fin de vie, la mort est quelque chose de très personnel. Et vous ne pouvez pas vous mettre à la place de qui que ce soit. Vous pouvez simplement essayer d'expliquer, d'expliquer surtout que l'annonce qu'on leur fait, ça n'est pas la fin du travail du médecin. L'accompagnement du médecin, même en réanimation, même chez quelqu'un qui va mourir, dont on sait qu'il va mourir, ça n'est pas la fin du soin.
Donc la recommandation qu'on peut faire, c'est dire si vous vous trouvez malheureusement dans une situation d'annonce difficile comme celle-là, ne vous fiez pas trop à ce que vous avez entendu, ni à ce que vous avez lu sur Internet, ou sur ce que vous avez éventuellement cherché sur Internet, mais fiez-vous davantage aux personnes qui vous entourent, à qui vous pouvez faire confiance et qui pourront vous donner des informations. Et s'il manque des informations, faire comme vous l'avez proposé, d'aller voir des spécialistes de la question qui sont capables de redresser ce qu'on appelle aujourd'hui une fake news.
Absolument.
Et je crois que la fin de vie, même si les médecins ont un rôle, ne serait-ce que pour dire qu'effectivement, il semble bien que vos jours soient comptés, mais je pense que pour avoir pratiqué longtemps la réanimation, souvent les familles me demandaient, il y en a pour longtemps. J'ai toujours répondu, je n'en sais strictement rien. D'où l'importance de recréer autour de celui dont l'heure est arrivée toute une ambiance, alors qu'il peut être de structure religieuse, de structure philosophique, de structure familiale, et le médecin ne peut être là que pour rassembler les gens et les amener à discuter. Et alors, si elle est plus difficile, c'est de discuter de la mort d'un être cher qui, s'il est conscient, est là et doit vous entendre. S'il n'est pas là, c'est un peu plus facile parce que les gens, mais c'est indispensable que tout le monde comprenne bien, la famille et le patient, que c'est pas la fin de la prise en charge médicale. En charge médicale s'arrêtera quand le cœur s'arrêtera.
Donc je pense que là on a bien fait le tour de cette première partie pour bien définir la problématique de l'annonce. On voit où peuvent être les difficultés, les rôles que chacun peut jouer, et avec quand même l'importance d'une intervention à plusieurs, de manière à ce que plusieurs points d'impact puissent être traités parce que la personne intéressée se pose souvent des questions avec plusieurs points d'impact différents. Donc une annonce qui se ferait plutôt avec une pluridisciplinarité, on peut dire, on peut retenir ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter dans cette première partie? Ça vous paraît qu'on a fait à peu près le tour?
Bon. Il faut s'occuper de l'environnement familial, parce que de temps en temps, les patients ont des impératifs que vous ne pouvez pas juger.
Alors, la question, là, elle est bonne, parce qu'effectivement, ça va nous servir de transition avec la seconde partie. La seconde partie, qui est le point de vue de celui à qui on annonce, et on verra en parallèle le point de vue de celui qui annonce. Donc, par quoi voulez-vous commencer, la parole du soignant ou la parole du soigné? Qu'est-ce qui vous paraît le plus utile, le plus cohérent?
C'est bon.
Pas de préférence.
C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, ça m'est difficile de me mettre à la place du soignant.
Ah bah écoutez, alors, on va donc commencer par
le
là.
Le soigné, je connais un petit peu.
très bien, très bien. Vous me facilitez la tâche. Donc, on va commencer par le point de vue du soignant. Alors, parmi les questions possibles, on voit tout de suite que l'objectif, c'est de bien annoncer pour bien prévoir. Parce qu'une fois l'annonce faite, le choc, le traumatisme ressenti, il va falloir s'y adapter. Donc, l'annonce, c'est ça, c'est bien annoncer pour bien prévoir. Et dans ces conditions, alors, il y a un problème de sémantique, on pourrait dire, un problème de vocabulaire, dans la mesure où les professionnels, par définition, veulent utiliser un vocabulaire de professionnel, qui n'est pas toujours perçu par le soigné. Donc, est-ce que vous avez rencontré ces difficultés-là avec des personnes qui ont été informées, mais avec une information qu'ils n'ont pas complètement comprise, donc avec une satisfaction du sens de la cohérence qui n'est pas parfaite, parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qui leur arrivait, dans la mesure où l'effet de choc étant plus présent, le vocabulaire utilisé n'était pas suffisamment précis?
J'aurais une anecdote à rappeler, mais c'est un journaliste à qui je parlais du diabète et de nos actions de contrôle capillaire. Et j'ai vu qu'il était très inquiet.
Il a regardé si vous aviez des cheveux.
Oui, il se demandait, mais comment vous faites avec les chauves? Donc il peut y avoir effectivement, ça commence par ça, un petit problème de compréhension de la sémantique professionnelle.
Et toi Bernard, dans le domaine de ton activité, où il va y avoir forcément une sémantique qui est très professionnelle?
Quand on est, plus on est jeune, plus on a tendance à se protéger dans les situations difficiles en utilisant le langage médical.
C'est un abri.
D'abord, il est bien rond, bien compris. Or, moi, j'ai eu souvent l'impression, quand j'étais pas encore très à l'aise, de me rendre compte que je faisais des discours très longs, dont il ne retenait rien. Et mes dernières années d'activité, j'avais pris l'habitude non pas de discuter, mais quand j'allais voir quelqu'un, parce qu'on avait une annonce un peu difficile à faire, de leur dire, je vous écoute, posez vos questions. Parce que là, à ce moment-là, on répond à une demande. Donc il y a quelque chose que les gens ont envie de savoir. Est-ce que vous leur dites, a un peu plus de chances de
passer,
alors que si vous déroulez la question d'internat, ça leur passe très largement au-dessus.
Alors, toujours en ce qui concerne les termes utilisés, y a des mots qui sont lourds. Par exemple, quand on fait l'annonce d'une maladie d'Alzheimer, ou l'annonce d'un cancer, ou l'annonce d'une maladie chronique comme le diabète, est-ce que ces mots, on les utilise d'emblée pour que les choses soient claires, ou est-ce que vous utilisez des paraphrases pour faire comprendre? Comment vous faites?
Non, je pense qu'il faut le dire directement. Je pense que c'est plus simple et ça permet de cadrer pour qu'on puisse après échanger, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on puisse échanger sur des thèmes et qu'on puisse avancer pour pouvoir commencer pour l'environnement, pour savoir comment on va gérer la maladie au quotidien, parce que c'est tout un quotidien qui va être chamboulé après avec des maladies comme
bien
ça.
Bien sûr.
Donc c'est important de mettre les mots exacts au départ pour permettre après d'avancer pour moi. Enfin,
et pour vous, M. Journet, c'est le même sentiment ?
Je connais des personnes qui ont été choquées que quand on leur a annoncé, hein, c'était pour un cancer d'ailleurs, on leur parle brutalement d'un cancer.
Et vous avez eu le sentiment qu'ils l'avaient ressenti avec trop de brutalité ?
Ouais.
Il aurait fallu avoir une annonce plus évolutive.
Il aurait fallu peut-être des... C'est pour ça que je pense que ça dépend de la personne qui reçoit, bien entendu.
Alors, par exemple,
il y en a qui ont besoin d'avoir une information claire.
C'est ça.
Et puis d'autres qui ont besoin qu'on les amène... Tout... Même si, dans leur esprit, ils ont compris tout de suite, hein. Parce que la personne dont je parle avait compris tout de suite. Mais lorsque le médecin...
Mais pour faire face...
Pour faire face, elle avait besoin qu'on l'amène tout doucement sur la rive. Pas facile, hein. Pas facile. Hein.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas beaucoup de temps.
Voilà.
Et moi, j'avais pris l'habitude, quand il y avait des choses difficiles à dire, d'abord de faire l'annonce en présence du plus grand nombre de la famille et de la faire en plusieurs temps, même si c'était dans la même journée, hein, parce que parfois, on est pris par le temps. Mais de dire... sortez, allez vous détendre, et puis vous revenez, puis on en recause, et puis lorsque vous aurez complètement intégré, vous nous direz ce que vous en pensez.
Donc avec l'idée d'une annonce qui est plutôt évolutive, plutôt et non évolutive. Pas brutale, où on met tout sur la table d'un seul coup, puis ensuite on dit aux personnes, voilà, vous avez bien compris, est-ce que vous avez des questions?
Oui, mais je crois qu'il faut que ça soit toujours évolutif.
Parce que ça, c'est quand même une mauvaise tendance, hein, à laquelle on assiste. Hein.
Oui, oui.
Mais
oui,
vous
après...
partagez cette impression?
Oui.
Oui,
après,
mais
en
se cachant par le fait qu'on n'a pas le temps.
Alors, voilà.
En réalité, on a toujours le temps, mais il faut parfois répéter. Et répéter, parfois, c'est dans la même journée. Hein.
Alors, on en vient peut-être à une autre question, qui est celle des conditions à mettre en œuvre pour que l'annonce soit bien faite. C'est-à-dire, où est-ce qu'on le dit, dans quelles conditions ? On voit très bien dans les services hospitaliers que parfois ça se passe dans un bureau, je ne dis pas dans un couloir, mais parfois dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures. Ou d'autre part, le moment où l'annonce est faite n'est peut-être pas forcément le meilleur choisi. Comment on peut faire, à votre avis, pour que l'environnement à la fois matériel, mais aussi l'environnement humain, soit le meilleur possible ? Parce qu'on peut imaginer qu'il est plus facile de recevoir une mauvaise nouvelle à plusieurs.
Sans doute, oui. Vous avez
avec la présence de la famille, par exemple. Ou des proches, ou des amis, je ne sais pas.
Oui.
Puis ça vous paraît être une réflexion qui a son intérêt?
Surtout pour après, pour la réaction après. Parce que bon, sur le coup, c'est un peu le coup d'assommoir. Mmh. Après, c'est bien qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse, quelque part, soutenir la personne qui est...
Et dans votre expérience, l'annonce est faite dans quel environnement ? Un environnement qui a été prévu pour ça ? Parce qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir dans des services hospitaliers, par exemple, une pièce qui a été adaptée pour l'annonce, une pièce avec un environnement que Antonovski aurait dit salutogène, c'est-à-dire qui génère plutôt la santé qu'au contraire la pathologie. Est-ce que ça vous paraît avoir été réalisé ou là il y a un effort à faire ?
Pour moi non, puisque j'étais à l'hôpital et bon, c'est dans une chambre d'hôpital qu'on m'a dit.
D'accord.
Bon, voilà. Non, après il y avait un service autour de moi qui a été vraiment très compréhensif, très, j'irais même très sympa. Et c'est vrai que...
Et si vous aviez eu un lieu, on va dire plus confortable pour le traumatisme initial de l'annonce, est-ce que ça vous paraissait quelque chose d'important ? Il faudrait le faire ou pas ?
Alors, ce serait bien, je pense, pour certaines personnes. Alors, j'ai souvenir de discuter de ça également quand je suis en réanimation, donc c'est des box, etc. C'est moins confortable que dans une chambre proprement dit.
Et toi, Bernard, tu as l'expérience ?
Moi, j'étais arrivé à la conclusion que vous donnez, c'est que c'est quand même, surtout quand le pronostic est grave, voire définitif, c'est quelque chose, l'annonce doit être faite avec une certaine, sinon solennité, tout du moins un décorum. Alors l'hôpital nous donne rarement une pièce décorée, mais je crois qu'il ne faut pas rêver. On peut très bien...
Mais on peut quand même en faire la demande, et avec le relais des médias, pourquoi pas.
Oui, non, mais ça s'en
est donné. C'est notre
mais
rôle.
Au moins, à notre, dans notre petite activité de chef de service, moi, je ne voulais pas que mes adjoints fasse une annonce de mauvaise nouvelle dans le couloir.
Ah bah bien sûr.
Vous leur dites, ils prennent rendez-vous. Et moi, j'avais dit à mes secrétaires, quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous prenez un rendez-vous, vous me l'envoyez, et je les reçois dans mon bureau, l'ensemble des familles qui peuvent ou veulent être là, et puis on rentre, on s'assoit, et une fois que tout le monde est bien installé...
Voilà une recommandation qu'on peut faire aux responsables d'établissement.
Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est quand même un moment tellement crucial pour la personne imaginons une sclérose latérale amyotrophique, hein, j'ai un ami, un collègue de travail à qui on a fait cette annonce.
C'est une lésion médulaire létale,
voilà, qui,
à court terme.
Emmène progressivement, sur un temps variable de 3 mois à 2 ans, vers la mort inéluctablement, et pour lequel on ne peut rien faire. Eh bien, c'est pas facile, mais il y a des gens qui font des médecins. Alors, d'où l'importance du médecin de famille. Pas du médecin généraliste qui va d'un malade à un autre à 2h ou 3h du matin, SOS médecin, etc. Mais le médecin de famille qui connaît toute la famille, qui vous connaît et avec qui vous pouvez arriver à trouver le cheminement qui va conduire à l'acceptation. Parce que le problème du médecin à ce moment-là, dans ces affections inéluctablement mortelles, c'est reconstituer pour les quelques mois qui leur restent à vivre un environnement, et pour ça, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai le souvenir de pour un gamin de 17 ans d'avoir mis une semaine pour voir toute la famille, le mari, les frères et sœurs, pour arriver à convaincre tout le monde. Et je les voyais tous au moins 1 heure ou 2 par jour pour leur expliquer c'est la fin. Et pour leur faire comprendre, surtout, alors j'ai eu du mal à le faire comprendre à une mère, faire comprendre à cette mère que son fils allait mourir. C'était obligatoire. Vu la lésion et vu tout ce que les spécialistes avaient dit, on était là, c'était la fin. Et la panique, quand j'ai dit, vous allez le reprendre chez vous. Elle dit, mais donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai dit, il n'y a rien à faire, puisque vous le reprenez pour qu'il meure. La seule chose dont il a besoin, c'est que quand, et je leur ai expliqué ce qu'il pouvait peut-être, mais c'était de l'imaginaire, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Ben vous venez, vous lui prenez la main, vous discutez s'il vous écoute, ou voilà, mais vous restez auprès de lui. Vous appelez pas le SAMU, le machin, le médecin, etc., qui ne peuvent faire que des erreurs, mais il a besoin à ce moment-là que vous soyez présent. Mais pour ce malade, il m'a fallu plus de 8 jours pour arriver à organiser ça et faire recevoir l'enfant chez lui. Et j'ai eu une mère quand même très compréhensive qui l'a repris chez lui, qui a convoqué tous ses collègues de classe. Il a passé sa dernière journée de vie, sa dernière après-midi de vie, dans le jardin chez lui, où ils ont joué avec ses copains. Et puis bon, le lendemain matin, c'est un boulot énorme et qui est très, très angoissant quand on le fait, et pour les familles et pour le médecin.
Sûrement, alors, Bernard, je pense qu'on a vécu l'un comme l'autre des situations d'échec. C'est-à-dire une annonce qui a été faite, on a l'impression qu'on n'a pas atteint notre but. C'est un peu ce que tu viens de dire, où il faut plus de temps. Alors, on n'a pas atteint le but, on peut se poser des questions, pourquoi? Alors, ça peut être parce que l'expression s'est voulue trop charitable et qu'on a quelque part caché... plus ou moins consciemment, une vérité qui paraissait difficile à laquelle il fallait difficile d'accéder. Est-ce qu'au contraire, c'était le résultat d'une volonté de mettre rapidement tout sur la table et puis de voir après comment les choses se passaient? Est-ce que c'est une mauvaise appréhension de la psychologie de celui à qui on annonce parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le côtoyer auparavant et de discuter avec elle ou avec lui pour voir un peu quels sont... Les points d'impact possibles, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ou bien encore, est-ce que la formation des soignants sur ce plan a été défaillante et qu'on ne leur a pas suffisamment dit comment il fallait faire? De toutes ces questions, qu'est-ce qui vous paraît être le plus pertinent? Je m'adresse à vous déjà peut-être, M. Journet.
Moi, j'aurais tendance...
Parce que vous avez sûrement des personnes qui viennent vous voir ou qui vous disent « ça a été un échec, on m'a annoncé ça, mais ça s'est mal passé pour telle et telle raison ». Est-ce que vous avez une conscience de ces raisons?
Je vais être franc avec vous. Les gens, oui, j'ai rencontré des gens qui sont venus nous voir et qui se sont plaints de la façon dont ça leur avait été annoncé. Mais en discutant avec eux, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. C'est quelle ça. Que soit la forme de l'annonce, ils n'étaient pas prêts à accepter.
C'est ça. Parce qu'il y avait une connaissance psychologique, ouais. Une connivence psychologique initiale qui n'était pas bonne.
Qui n'était pas bonne.
C'est aussi votre avis,
madame. Oui, c'est aussi mon avis. Oui, oui, tout à fait.
Et toi, peut-être, ouais. Bernard, plus sur la partie formation médicale, est-ce que tu as l'impression qu'elle est suffisante actuellement?
Non, elle est très, très insuffisante. Ah, oui. Je pense qu'on a un peu trop répété au médecin qu'il était là pour faire un diagnostic et pour soigner, et on lui dit rarement, je ne sais pas si tu vas être de mon avis, mais qu'il est là surtout pour accompagner, pour être celui à qui on va pouvoir dire un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'inversement, le médecin a tendance à se protéger et à ne pas rentrer dans des discussions complexes. Et parfois, involontairement, on croit qu'on s'est fait expliquer, qu'on s'est fait comprendre, et puis on se rend compte que non, on a oublié quelque chose.
Je partage d'autant plus ton avis qu'il me semble, à la fin de mon parcours, que le système de santé s'est beaucoup focalisé sur la maladie, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'avec l'imagerie aujourd'hui, on voit la lésion, et en plus on la voit même évoluer. Donc c'est un peu fascinant quelque part. Mais cette mise en lumière de la maladie, inversement, met dans l'ombre celle ou celui qui l'a subi. Et ça correspond un peu à ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire que si on veut avoir une bonne formation, on doit avoir, dans ces conditions, conscience qu'il faut prendre en compte l'aspect humain des choses et non pas simplement la maladie et ses conséquences malheureuses. Vous partagez aussi cette impression?
Absolument.
Oui. Absolument. Bon. Oui, tout à fait. Oui.
Alors,
mais... les études de médecine durent déjà 10 ans.
Trop longtemps.
Peut-être pas trop longtemps, mais...
Trop longtemps, surtout en ce qui concerne les spécialités, où on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de spécialités qui n'ont pas besoin d'avoir une connaissance très précise de l'immunologie, par exemple, ou de tout ce qui est la pharmacologie complexe de l'antibiothérapie. Alors qu'au contraire, ils auraient besoin d'avoir un enseignement très solide, par exemple, en anatomie. Ou en physiologie, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre question sur laquelle on pourra revenir un autre jour. Alors, maintenant, on va peut-être pouvoir venir, si vous voulez, sur l'annonce vue par l'intéressé, cette fois. Mm-hmm. Par l'intéressé, par son entourage. Parce que vous, dans votre association, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez des personnes, mais vous avez aussi l'entourage qui vient peut-être vous voir et qui apporte des choses. Il me semble que dans ces conditions-là, il est important de savoir, par exemple, dans votre expérience, est-ce que vous avez eu souvent l'occasion de pouvoir discuter avec l'entourage, qui peut être une aide et qui peut relayer votre information? Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Est-ce que spontanément, les personnes le font ou vous leur conseillez de le faire?
Alors, spontanément, on a souvent la personne malade dans un premier temps, mais c'est pas rare qu'on leur dise ou qu'on discute. Alors, c'est plus quand on les a, par exemple, sur des salons, sur des... Là, souvent, ils sont accompagnés de leurs conjoints, de leur fille, de leur fils, etc. Et là, on arrive à discuter aussi avec les aidants et les gens qui sont présents autour. Et c'est vrai que là, ça, on peut jouer sur les deux volets, finalement.
Parce que très souvent, on perçoit que l'annonce qui est ainsi faite conduit à un véritable traumatisme psychologique, on appelle ça un choc, enfin, comme vous voulez, un traumatisme ou un choc, ces mots vous agréent, ça correspond bien à ça.
Surtout pour l'entourage des diabétiques de type 1, notamment chez les enfants. C'est vraiment... Candace Bensignor dit d'ailleurs qu'il s'agit d'un tsunami. Dans les familles, c'est un tsunami. Alors, chez les diabétiques de type 2, l'entourage peut, au contraire, conduire à une sorte de, comment on pourrait dire, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'essayer de calmer le jeu chez une épouse d'un diabétique de type 2, elle lui faisait vivre l'enfer.
À cause du régime,
elle pesait, mais au gramme près, la quantité, oui, etc. Donc, alors c'est vrai que autrefois, le régime pour les diabétiques de type 2 était quand même assez contraignant. Mmh. Maintenant, les médecins sont beaucoup plus cool, je dirais, avec ça, quoi, bien entendu.
Et est-ce que, Bernard, en cas de maladie létale, à plus ou moins brève échéance, est-ce que le traumatisme est toujours perçu comme ça, ou est-ce qu'initialement il y a un déni ?
Alors, ça dépend des situations. Il y a parfois un déni de la situation grave qu'on ne comprend pas. Moi, je me souviens d'un malade qui avait fait, dans un hôtel, un œdème aigu du poumon gravissime, intubé, mis sous machine, emmené à l'hôpital, et qui s'était rapidement résolu. Et néanmoins, il va peut-être falloir rester quelques jours à l'hôpital, parce que, et qui n'a jamais voulu. Il envoyait promener l'interne, le praticien. Il m'envoyait promener. Moi, quand j'ai été le voir, qu'on m'appelait en me disant quand même, qu'est-ce que je fais ? Il vient de faire un infarctus. Hein. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ben, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne sortais pas de domaine médical. Infarctus égale repos, réparé, enfin tout un tas de médicaments. Et je ne l'avais pas interrogé sur la raison qui l'amenait à avoir cette position aussi franche. Or, comme ça m'était déjà arrivé pour d'autres occasions, pour d'autres types, j'ai fait sortir tout le monde. Puis j'ai dit, bah, maintenant, dites-moi vraiment pourquoi vous ne voulez pas accepter de rester. Mm-hmm. Et là, il m'a expliqué, voilà, je suis de passage à Dijon, je suis venu à un congrès, accompagné de la dame avec qui j'étais, qui est ma secrétaire, et il est hors de question que ma famille soit au courant que j'étais à Dijon, pas dans des conditions tout à fait. Et il n'est pas une question que je. Parce que je sais, il dit bon, on va prévenir votre femme, on va prévenir. Elle n'est pas question de votre beau-frère.
Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut considérer que le déni correspond à un mécanisme de défense ?
Oui, c'est une protection. Il m'expliquait, c'est une protection pour moi, mm-hmm, mais surtout, il avait un patron de PME, une petite PME de 50 personnes. Il m'a dit, la situation pas facile actuellement. Si je ne suis pas rentré ce soir, ça peut être catastrophique et mon affaire risque d'être fermée. Donc, et puis bon, c'était un accident comme ça.
Donc c'est un déni de protection. Oui. Est-ce que vous avez rencontré les uns ou les autres des difficultés d'accepter le diagnostic et le pronostic avec comme réaction de défense une minimalisation ? C'est-à-dire qu'ils ont plutôt envie de minimiser ce qu'on leur a dit, de l'atténuer, de l'habiller en quelque sorte. Est-ce que c'est fréquent ?
Alors c'est fréquent peut-être chez les types 2. Ils sortent souvent avec un comprimé. On prend un comprimé et puis ça va bien aller. On leur dit aussi de faire de l'exercice physique. On leur dit aussi de faire attention quand même à l'alimentation. Souvent, ils ont même un peu d'embonpoint, des choses comme ça, essayer de les mettre un peu au régime. Et ça, souvent, chez les types 2, je prends mes comprimés, je les prends bien régulièrement. Donc, le reste, ça va bien aller. C'est plus difficile.
Même les comprimés, des fois, parce que certains comprimés, la metformine, donc, provoquent des agréments de vie quotidienne, quoi. Ne suivent pas nécessairement.
Est-ce qui veut dire alors effectivement qu'ils peuvent aller vers un mauvais traitement, avec une absence même de traitement.
Ça
vous paraît un mécanisme de défense ?
Alors défense.
Ou c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris.
Je pense que c'est plus un rejet de la maladie que défense.
Voilà. Ça peut pas m'arriver à moi.
Non, mais
même
c'est
d'un accident de la voie publique.
Comme il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de symptômes immédiats pour les types 2, on verra bien que la cécité, oui, mais dans 10 ans, on vous coupera peut-être l'orteil, oui, mais dans 5 ans. Donc, une sorte de procrastination. je vais réussir à dire, de procrastinating. Quelque chose qui... Ben, je vais continuer demain. De vivre et puis on verra bien ce qui se passera.
Ils savent qu'il faut le faire, mais...
Ils savent qu'il faut faire, ils ont
demain,
compris.
Demain, ou peut-être demain. Après-demain.
Ou après-demain.
Ou alors ils continuent de vivre comme ils vivaient avant. Ils ne veulent pas du tout faire quoi que ce soit.
Alors, les psychiatres décrivent souvent ce qu'ils appellent l'isolation. C'est-à-dire mécanisme de défense. Non seulement on ignore qu'on a cette maladie-là, mais surtout on ne veut pas en entendre parler parce qu'on va s'isoler dans un secteur qui est une espèce de bulle qui les protège de la pathologie qui pourtant est présente. Vous avez rencontré ce type de réaction ?
Oui, on en rencontre. Alors, ce n'est pas la majorité, mais oui. Il y a
Je dis c'est pas la je parle pour les types 2.
Oui, oui.
Je dirais, si ce n'est pas la majorité, c'est bien la moitié.
On a du mal.
Et tu as, toi, Bernard, cette impression-là aussi ?
C'est un peu trop aigu, puisque c'est vraiment le truc, l'accident brutal, irréversible. Mais j'ai bien vu de gens qui disent « Bah oui, mais c'est un petit truc. Le type, il a fait son infarct. Il a voulu reprendre sa voiture pour rentrer de Dijon à Lyon. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. On va essayer d'avoir un accident. Un truc. Non, non, moi, c'est rien du tout. Là, je vais bien. Et puis, je me débrouillerai bien.
Hein, » Alors, peut-être une question qui se pose à cette limite. Est-ce qu'il vous paraît parfois utile de conseiller à la personne de voir un psychologue pour avoir une meilleure appréhension, une meilleure gestion de la situation? Est-ce que ça vous est arrivé de le conseiller?
Alors,
ou comment vous pratiquez?
Non seulement on peut le conseiller, mais nous on a une ligne d'écoute au niveau de la fédération qui est ouverte de 10h à
20h. Avec une psychologue ou un psychologue?
Avec des gens formés pour ça, pour répondre aux gens qui ont des problèmes, etc. C'est au niveau national, c'est un numéro national. Et les gens peuvent appeler...
Vous dites un numéro national, c'est-à-dire conseillères interviennent... De Paris
Oui, tout à fait. On a une ligne d'écoute qui fonctionne pour toute la France et qui est ouverte tous les jours pour répondre justement à ces problèmes-là, aux gens qui ne savent plus, qui sont perdus, et on peut les comprendre quand on a des annonces comme ça, de toute manière.
Alors, ce ne sont pas des psychologues diplômés, si je puis dire, mais ça fait partie de nos patients experts. Vous savez qu'il y a partenaires, etc. Les patients experts qui ont une formation très complète sur la pathologie et une formation en psychologie, en animation de groupe, en écoute, etc. Et qui sont, il y a une sorte de c'est organisé par notre fédération nationale, si vous voulez, de répartition. Bien. Ils sont là, ils disent, bon, ben, je suis à l'écoute de 9h à midi, donc on leur passe les coups de fil de toute la France.
Il y a plusieurs associations diabétiques ?
Alors, il y a une fédération des associations diabétiques
qui regroupe l'ensemble.
Et puis, à côté de nous, alors ça représente quand même pas mal de gens, d'adhérents, mais à côté de nous, il y a une association pour les jeunes diabétiques qui s'adresse essentiellement aux jeunes diabétiques de type 1, qui est beaucoup moins active que nous, beaucoup moins riche en bénévoles aussi. Et puis, il y a, selon certaines régions, des associations d'enfants diabétiques. À Dijon, il y a Croque Diabète, avec Candace Ben Senior, qui fait un travail formidable pour les enfants diabétiques de type 1 de moins de 12 ans.
Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de votre association, vous avez la possibilité éventuellement de donner des adresses, des numéros de téléphone
à
d'autres.
Absolument.
Très bien. Pour que l'annonce, finalement, soit la meilleure possible.
Absolument.
Alors, on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez des réflexions particulières à faire ou des questions qu'on n'ait pas évoquées et qui vous tenaillent quelque part ? Non ?
Non, moi, j'aurais tendance à dire, en tant qu'ancien enseignant, il faut absolument que la mort soit évoquée auprès des étudiants en médecine, qu'ils soient formés à être en contact avec des familles qui vont devoir vivre cet accompagnement, que ça ne s'invente pas et qu'il est dommage que ce soit à la fin de sa carrière que tu commences à dire ben, « j'ai peut-être compris quelque chose ».
Alors c'est vrai qu'il reste beaucoup de secteurs au niveau médical, au niveau d'éducation médicale qui sont à pourvoir. On ne va pas se quitter sur la mort, mais on va se quitter plutôt sur une fonction qui est très peu abordée dans le domaine des études médicales de base, c'est la sexualité. Et ça, c'est très embêtant, c'est quand même nettement plus plaisant. Et il faut dire que sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire pour que les études médicales soient un peu transformées. Alors, arrivé à la fin de cette émission, j'aimerais bien sûr vous remercier, tous trois, de nous avoir permis de mieux aborder la problématique de l'annonce. Je pense qu'elle a été suffisante. Si nos éditrices ou nos auditeurs le souhaitent, ils pourront prendre contact pour que l'on donne davantage d'informations. Il est vrai que l'annonce incarne un moment décisif dans la relation de confiance entre patients et soignants, avec un objectif clair, c'est de permettre à chacun de vivre au mieux avec sa maladie, avec un mot qui vient maintenant de l'anglais, qui est l'empowerment, c'est-à-dire l'autogestion de sa propre santé. Mais c'est vrai que l'atteinte de l'objectif est difficile. Alors, espérons que notre émission aura quand même été utile, et avec un dicton qui est souvent repris, qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc, essayons de bien les nommer en ce qui concerne l'annonce. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.